putain de cellule au premier étage. Je te réunis en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je piongeais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà, tu mets pas de fête à saccager les pions. J'ai dit, allez, les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. Allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien à l'écoute de L'Envolée comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur FPP 106.3. L'Envolée, c'est une émission et un journal qui se bat contre toutes les formes d'enfermement, que ce soit la tôle, l'HP ou les centres de rétention administrative pour les personnes sans papier, et qui fait ça en essayant de se faire le relais de la parole des personnes enfermées et de leurs proches. Donc aujourd'hui, autour de la table, il y a Jade.
Salut.
Il y a Julie.
Salut.
Il y a Inès au bocal.
Salut.
Et Louise qui vous salue. On va peut-être rappeler les contacts pour nous écrire et tout.
Yes. Alors, donc pour nous écrire, c'est au 1 rue, c'est fpp-l'envolée au 1 rue de la Solidarité, Paris 19e. Pour nous appeler en direct à la radio, c'est au 01 40 05 06 10. Donc voilà, ça, vous pouvez nous appeler en direct. Aujourd'hui, on a une émission un peu chargée, mais de façon générale, c'est là. Et tout le reste de la semaine, vous pouvez nous contacter via le portable au 07 53 10 31 95. Voilà, par appel, SMS ou signal. Ensuite, par mail, c'est contact@l'envolée.net. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram et sur Twitter.
Yes, et du coup aujourd'hui, ouais, émission assez chargée, on va commencer par lire deux lettres, comme d'habitude, et ensuite on va avoir un appel du porte-parole de Tom, porte-parole du collectif Palestine Vaincra, qui nous donnera un peu des nouvelles, puisque là ils ont une audience au Conseil d'État lundi, Et après, on va faire une grosse discussion avec Julie de Solidarité Kanaky, à la fois sur ce qui continue à se passer là-bas en termes de répression depuis mai dernier, et sur la situation des personnes qui ont été déportées, des personnes kanak qui ont été déportées en métropole depuis juin. Voilà, du coup, on commence par la première lettre.
Alors, c'est une lettre qui a été envoyée de Moulins le 16 janvier. Salut l'envolée. Moi, ça va, on n'a pas le choix, lol. Quand vous lisez mes courriers, dites comme surnom Skitter, comme le dessin animé à l'ancienne sur Canal J. Je suis rentrée été 2017 pour homicide à Marseille et on m'a écrouée à l'UIN 1 sur Aix-en-Provence. J'ai fait au moins 2 ans et demi et après on m'a jugée en 2019. J'ai pris 17 ans, à l'époque j'avais 20 ans, là j'en ai 28. Ensuite on m'a transférée à l'UIN 2. J'ai fait 2 ans, mais comme j'avais la haine, j'ai tabassé plein de détenus pour me défouler. J'étais super impulsif. Bref, j'ai dû faire au minimum 300 ou 400 jours de cachot, mais en plusieurs fois. La première année, j'ai eu 174 CRI, compte rendu d'incident. Du coup, vous imaginez le gremlins que j'étais. Vu que c'est ma première incarcération et que j'ai pris 17 ans, je pensais avoir gâché ma vie. Du coup, gâché pour gâcher, je faisais le héla, comme on dit chez moi à Marseille. Après, on m'a jeté à Arles, j'ai fait le bordel, comme d'habitude, lol. Ils m'ont gardé 18 mois et ils m'ont dégagé au QI, sans télé, sans frigo en plein été, avec une infection à la dent car il n'y avait pas de dentiste pendant plus de 6 mois. Bref, après, transfert en MOS, mesure d'ordre et de sécurité. C'est quand ils n'arrivent plus à te gérer ça. Et enfin, j'atterris à Moulins. Et au bout d'un mois, je vais au cachot car j'ai craché dans la tête aux surveillants. J'ai pris 30 jours de cachot, 6 mois et 1000 euros d'amende. Après, cuit pendant 20 mois. Et là, ça fait depuis le 15 novembre que je suis dans la détention normale. Pour le travail au QI, ils me ramenaient des cartons dans ma cellule et je devais le faire. Mais je vous mens pas, je l'ai fait parce que j'avais pas 1 euro dans le pécule. Mais c'est des tâches abrutissantes. Et comme t'as pas le droit d'avoir des outils, tu dois tout faire à la main. Force à toute l'équipe, j'ai la radio dans la cellule, j'ai essayé mais ça capte pas à Moulins, j'ai même essayé les stations des autres villes au cas où mais rien. À la prochaine, Skitter.
Bah, merci beaucoup pour ta lettre, Skitter, du coup. Moi j'ai pas vu ce dessin animé donc je sais même pas si je prononce bien le blaze. Mais ouais, bah du coup, il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette lettre, même si on est un peu en stress de temps. Et peut-être une des premières choses, c'est qu'en fait, bah effectivement, enfin nous, on parle pas souvent de la violence entre personnes enfermées, parce qu'on se dit c'est pas trop nos histoires et tout. Mais donc voilà, on trouve pas ça cool en soi de tabasser les autres détenus et tout. Mais en fait, ce qui est sûr, c'est qu'à 20 ans, quand tu prends une peine à 2 chiffres, que tu prends 17 piges, bah c'est normal de phaser total et d'être enfin voilà, c'est normal de phaser et que de toute façon, indépendamment de prendre une peine à 2 chiffres, quand on se retrouve en taule, enfermé avec des gens, les tensions elles montent assez vite et c'est ça se comprend quoi.
Ouais bah c'est ça, c'est un peu juste tu pètes un câble, ça peut être contre soi ou contre les autres ou enfin les deux en même temps, on reçoit aussi souvent des témoignages de personnes qui juste disent que elles pètent des câbles dans leur cellule quand par exemple il va y avoir des nouvelles codétenus ou enfin dans plein de contextes parce que juste c'est ce truc de être hyper en fait à partir de ce niveau-là ouais de peine ultra longue le côté un peu carotte bâton de si tu te comportes bien peut-être que tu vas avoir des remises de peine ou je sais pas quoi bah en fait là il marche même pas donc juste ce côté un peu on attend que les personnes s'autodisciplinent en leur faisant espérer des trucs ça marche pas donc ouais ça a conduit à des moments de craquage ou de pétage de câble ouais qui malheureusement arrivent au vu de juste le contexte hyper insupportable dans lequel les gens sont mis quoi.
Ouais, mais c'est ce qu'il dit, gâcher pour gâcher. En fait, on lui laisse aucun espoir. On lui met une peine énorme, on lui laisse aucun espoir. Donc bah voilà, gâcher pour gâcher, il fout le bordel. Et ce que cette lettre, elle montre aussi, c'est un peu la spirale dans laquelle t'es pris quand ça se passe pas forcément bien à l'intérieur ou si tu te révoltes et tout. C'est qu'en fait, t'as de plus en plus, à force de prendre du mitard, des CRI et tout, une étiquette de mec qui fout le bordel. En fait, ça va te suivre de transfert en transfert. Ça, c'est aussi assez clair dans la lettre. Et en fait, du coup, les prisonniers se retrouvent dans une galère de plus en plus forte. Et donc, ça se finit avec des 20 mois de QI à Moulins, totalement isolés et tout. Et donc c'est ça dont il parle aussi quand il parle des mesures d'ordre et de sécurité. C'est aussi un truc que tu mets aux détenus pour ensuite faire des transferts disciplinaires. Et là on voit aussi comment les transferts l'éloignent de plus en plus de Marseille, en fait, d'où il vient, quoi. Alors il est à Aix, ensuite il est à Arles, maintenant il est à Moulins, en fait c'est quand même loin et tout, donc voilà. Mais ça montre ce truc aussi dont il parlait dans une lettre qu'on avait lue à une autre émission, de la centrale, elle est faite pour te faire faire ta peine jusqu'au bout, et que en fait, à force de te faire péter des câbles et tout, c'est, tu prends des peines internes, et ça, c'est super long et sans aucun espoir. En fait, là, c'est aussi bien ce qu'il montre, c'est qu'après tous ces transferts et tout, bah ouais, il crache à la gueule au maton, et il se reprend 6 mois en plus avec des amendes et tout, mais... Enfin, c'est aussi... Enfin, on en avait pas mal parlé la dernière fois, quoi. C'est juste, on te pousse à bout, quoi. Faut pas s'étonner de ça.
Et du coup, à devoir, en l'occurrence, payer une amende... Alors que il décrit qu'il a pas trop de thunes et que du coup il doit bosser, mais comme il est à l'isolement, il doit bosser dans sa cellule pour gagner les miettes qu'on va lui donner, parce que bon, évidemment, c'est payer des miettes, tout ça, pour payer une amende de 1000 balles à un matou. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, genre, il y a rien dans tous ces éléments là qui font que tu vas pas péter un câble à un moment, je pense.
Puis les conditions que tu décris au QI, sans frigo, en plein été, sans télé, c'est aussi fait pour pousser les gens complètement à bout. Et c'est particulièrement inhumain. Il y a aussi dans cette lettre quelque chose qu'on dit souvent, qui est la question des refus de soins en détention. Poireauter pendant 6 mois parce qu'il n'y a pas de dentiste avec une rage de dents, c'est juste horrible. Et ça aussi, c'est un truc qui pousse complètement les gens à bout.
Ouais, carrément. Ça, c'est vraiment un truc dont on parle tout le temps, sur ce truc des fois d'attendre des années. Mais en fait, une rage de dents, ça fait vla mal en plus. C'est quand même méchant. Et ouais, en fait, je sais pas s'il le dit dans cette lettre, en tout cas, il l'avait dit dans d'autres, qu'il est indigent. Donc ça veut dire qu'on te balance 30 balles par mois. Et en fait, c'est ce qu'il dit, c'est que le travail qu'il fait en cellule, on en avait parlé la dernière fois ou l'avant-dernière émission, c'est un taf complètement abrutissant où il doit mettre ensemble deux bouts de papier, faire des marque-pages et tout. Mais en fait, il a zéro thune. C'est la seule manière d'améliorer un tout petit peu ton quotidien, quoi. Mais en tout cas, ça rejoint pas mal de trucs qu'on dit souvent aussi sur... là, il dit le MOS, c'est un truc qu'on met quand on sait plus te gérer. Donc en fait, après, on te relègue dans des sombres quartiers d'isolement où tu peux passer des mois et des années pour certains. Et c'est vraiment ce truc de les gens dont on sait plus quoi faire, dont l'administration sait plus quoi faire, et va juste les envoyer de centrale en centrale au QI, quoi.
Enfin, c'est plus quoi faire, mais en même temps, elle a complètement conduit à cette situation-là par l'accumulation des peines internes, les étiquettes qui font que dès que tu arrives ailleurs, t'es étiqueté comme détenu particulièrement problématique, et donc tu as beaucoup plus de coups de pression qui te donnent aussi beaucoup plus de moments au cours desquels tu craques avec les matons qui foutent la pression. Donc, arrive pas à gérer une situation qu'elle a complètement produit d'elle-même, quoi.
Carrément. Merci pour cette lettre. En tout cas, tu peux pas nous entendre à Moulins parce qu'on n'est pas rediffusé là-bas, mais ça nous ferait grave plaisir. En tout cas, on t'envoie plein de force et on te dit à la prochaine lettre. Je vais vous lire la deuxième lettre qui nous a été écrite le 12 janvier par un déporté kanak. Du coup, je vous lis la lettre. On vous lit la lettre parce qu'elle est un peu longue, donc on va se la partager. Bonjour l'envolée. Merci pour le journal. Il y a vraiment tant de choses à dire sur ce que traverse mon peuple et vous, ici, ne savez absolument rien. On ne vous dit pas tout et puis vous avez vos propres problèmes quotidiens à gérer. Ton prénom m'a fait rappeler l'histoire de cette communarde de Paris en 1871. Louise Michel, pour s'être révoltée contre le pouvoir des dirigeants de son époque, elle fut bannie et déportée dans les bagnes en Nouvelle-Calédonie. C'est ce qui se passe avec nos militants et militantes déportés et envoyés à des milliers de kilomètres de leurs proches pour s'être révoltés contre le projet de dégel du corps électoral. Le ministre de ce moment a utilisé un terme fort et puissant en nommant cette révolte terrorisme et, par abus de pouvoir, a fait appliquer cette sentence. Ne serait-ce pas une forme de dictature de sa part ? Nous sommes et avons toujours été un peuple hospitalier. Cette gentillesse fut une faiblesse pour nos ancêtres. Le peuple kanak souhaite tout simplement récupérer ce qui lui appartient de droit, les terres spoliées injustement, et vivre en harmonie et bonne entente avec toutes les différentes ethnies installées depuis sur cette île. Nous disons que la terre ne nous appartient pas, nous lui appartenons. Elle est à celui ou celle qui sait la travailler, mais nous, peuple kanak, sommes ses gardiens. Le président Macron avait lui-même dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. 170 ans après, nous sommes encore et toujours sous le joug du colonialisme. Tous les ans, la France fête la date du 14 juillet 1789, jour où le peuple français s'est libéré de la monarchie en prenant la Bastille. Le peuple a créé la République avec cette belle et grande devise, liberté, égalité, fraternité. Franchement, j'aimerais bien aussi me reconnaître en elle, mais dans cette République, une certaine monarchie y règne encore. Beaucoup de Français ici vivent sous le seuil de pauvreté et de précarité. Nombreux ont du mal à s'en sortir pour les fins de mois. Et sûrement que beaucoup se sentent comme des étrangers dans leur propre pays, car c'est cette sensation que nous avons aussi chez nous. Au lieu de venir balayer chez nous, le gouvernement français devrait plutôt s'occuper de son peuple. Au fait, ma fin de peine carcérale est pour le 11 juin 2026, et j'espère que cette prison où je suis pense déjà à mon retour, car je ne travaille pas, mais je perçois une indigence de 30 euros. Je n'ai aucune famille sur ce continent. D'ailleurs, mes deux demandes de transfert pour rapprochement familial m'ont été refusées. Ah oui, et j'ai essayé de capter votre fréquence radio, mais impossible de la voir, dommage. Ici, en ce moment, mon seul et meilleur ami est ce lit en métal. Nous sommes devenus inséparables. Mon temps n'est pas gaspillé, bien au contraire. Il vaut mieux être seul et bien que d'être entouré mais mal accompagné. Et puis c'est de moi-même et non des circonstances extérieures que vient le découragement. Je n'ai que moi ici sur qui compter, alors je m'encourage en autosuggestion positive. Pour me mouvoir entre ces murs mentaux, je reste discret. Le pouvoir de punition est avec eux. J'ai appris le temps qui, je le réécris, est notre prison à tous. En tout cas, merci, et je reviens sur une phrase écrite par un de mes frères dans ce journal. Une phrase formulée d'un de nos leaders indépendantistes, Éloi Macoro, « Il vaut mieux mourir debout que de vivre à genoux ». D'ailleurs, tous les 12 janvier, le peuple kanak lui rend un hommage. La France doit redorer son blason, qui pour nous fut celui du pays des droits de l'homme. Elle doit nous rendre notre liberté, notre indépendance. Merci, André.
Et du coup, cette lettre, elle continue sur une phrase d'un autre leader indépendantiste. Jean-Marie Tchibaou a aussi dit ceci: tant qu'il y aura encore un kanak, il continuera encore et toujours d'emmerder l'État français jusqu'à avoir son indépendance. Tant qu'il y aura encore un kanak debout, et cette consigne est transmise de père en fils, de mère en fille. Alors vive la France et liberté pour Kanaki. Et une autre phrase de cette même personne: il vaut mieux vivre dans la pauvreté mais libre que vivre dans la richesse en étant esclave. Voilà, et ensuite on a un poème dans cette lettre qui s'appelle Calédonie Makanaki. À la conquête du séjour paisible, île du paradis tant convoitée, cette beauté sombre de la grande terre calédonienne où des caravanes de montagne viennent s'effondrer dans la mer, ces ravins emmêlés et ces brumes qui s'effilochent sur les hauts sommets, lieu des non-dits. On dirait cette île de montagne traversée d'orages muets et de tressaillements très profonds. Oui, quelle gravité. James Cook, grand navigateur, jadis en frissonna, lui qui pourtant n'était point un tendre, tout là-bas déraciné, l'être de lui-même, le silence profond, la solitude où la pensée frappe de ses ailes les sommets tourmentés des montagnes. Tout cela nous emporte loin, bien loin de notre propre existence. Oh, ma belle tendre mère, je t'ai laissée bien malgré moi. Mon existence n'a aucune valeur, car loin de toi, je suis un sans racine, un déraciné. Ma seule consolation est de te retrouver pendant mes rêves. Éternelle terre et mer, notre belle mère nature, en nous est mère nature. En mère nature, rien ne meurt ni se termine. En mère nature, toute mort donne vie. Toute fin n'est que l'achèvement de ce qui précède. Tout achèvement, le commencement de ce qui suit. Humblement, je suis conscient et reconnaissant de tes bienfaits. Ma Kanaki, tu fais de toi ton kanak. Je vis et respire à ton service. Chucha Kanaki. Voilà.
Bah, merci beaucoup à André pour cette lettre. Il y a pas mal de choses que tu dis dans cette lettre sur lesquelles on va revenir dans la deuxième partie de l'émission avec Julie. Du coup, je sais pas si on développe tout de suite ou pas, mais en tout cas, c'est toujours le même isolement qui est décrit dans ces lettres de déporté kanak, où t'es super loin de chez toi. Là, c'est bah, particulièrement frappant aussi qu'il dit qu'en fait, il y a eu des refus de rapprochement familial et qu'en fait, il commence à penser au retour. Et ça, c'est une question dont on va reparler aussi, mais qui est très, très compliquée.
Ouais, on en parlera tout à l'heure par rapport à la solidarité qu'on mène vis-à-vis de l'ensemble des déportés kanaks sur le sol français. Et justement, cette question du retour et de refus de transfert sur Nouméa et de prise en charge par l'État de ces transferts, on en parlera tout à l'heure et c'est un point central de nos revendications aussi.
Et il n'est pas le seul à en parler en tant que prisonnier. Nous, on a aussi des lettres et il y a plusieurs prisonniers qui s'inquiètent de ça et on en parlera tout à l'heure.
Yes. Peut-être on voulait juste revenir rapidement sur ce truc qu'André dit à un moment que les Français se sentent étrangers chez eux et que c'est un peu comme en Kanaki ou quoi.
Ouais, alors après, c'est pas... Comment dire ? Nous, on a reçu aussi une lettre d'un prisonnier qui évoquait le fait qu'il y avait beaucoup d'étrangers en France et que les problèmes en France étaient liés à l'immigration et il parlait qu'il fallait augmenter les OQTF, etc. Et en fait, du coup, on lui a répondu aussi sur c'est quoi la réalité en France de la question migratoire et la question des frontières et qui se pose pas du tout de la même manière qu'en Kanaki. On comprend tout à fait que dans le discours en fait du peuple kanak qui se fait noyer par une immigration métropolitaine. Métropolitaine de France, parce que bon, le terme de métropole, ça reste quand même comme si on acceptait que la Kanaky c'était la France, mais non en fait. Et du coup, donc d'une immigration assez forte de cadres, de gens qui prennent à la fois au niveau immobilier, il y a une montée du prix de l'immobilier à cause de ça. Il y a aussi tout ce qui est l'accès à l'emploi pour les Kanaks, une discrimination qui est énorme. Et puis en fait, il y a une mainmise par en fait une classe bourgeoise blanche métropolitaine sur la province sud mais aussi sur l'ensemble du territoire. Et donc en fait je pense qu'il y a une question de contexte à prendre en compte dans sa phrase et ça va rejoindre ce de quoi on va parler tout à l'heure sur la question du dégel du corps électoral. On est dans un processus de décolonisation en Kanaky, donc l'ouverture du corps électoral, il vient remettre en question ce processus-là, ce qui n'a rien à voir ici avec une ouverture des votants aux étrangers, etc. C'est pas du tout le même contexte ni rien, ou même la présence des étrangers sur le sol français. Et donc nous, on avait répondu d'ailleurs à un des prisonniers en expliquant ce contexte-là, et il nous avait répondu en nous remerciant parce qu'il se rendait pas du tout compte de tout ça et qu'effectivement, il fallait pas justement faire la même comparaison, quoi. Mais donc en même temps, c'est pas hyper étonnant de la part d'un prisonnier kanak, de kanak en général. Hein. Il y a des chansons et tout, ce stop au colonialisme, stop à l'immigration, et avec des refrains à bas l'immigration. Donc bon, mettre ça, on l'a déjà vu une fois. Il y avait ça en manif, des gens ils n'avaient pas compris. Et c'était un camarade kanak qui gérait. Mais du coup, c'est assez c'est un sujet qui est assez classique et sur lequel on revient et voilà quoi. Ils sont pas forcément conscients de la situation réelle en France, quoi.
Ouais, c'est pas du tout les mêmes enjeux de pouvoir et de réalité dans ces cas-là, quoi.
Yes. Bah, on reparle de tout ça tout à l'heure. Là, on enchaîne un peu rapidement sur l'appel de Tom.
Bonsoir.
Salut. Tu nous entends bien?
Ouais, très bien.
Ok, super. Bah, du coup, je vais peut-être te laisser présenter pourquoi tu nous appelles et tout.
Oui, du coup, moi, je m'appelle Tom, je suis membre du collectif Palestine Vaincra, et c'est une organisation de soutien à la résistance du peuple palestinien qui existe depuis de nombreuses années. Et en 2022, Gérald Darmanin a déclenché une procédure de dissolution contre notre organisation, en raison de nos positions politiques clairement anti-sioniste et anti-impérialiste, et une procédure qu'on a fait suspendre en faisant un référé au Conseil d'État, en attendant une audience au fond, qui devait se tenir dans les mois à venir, et finalement, après près de 3 ans d'attente, l'audience au fond aura lieu lundi prochain. Pour nous, c'est important d'en parler, non pas pour parler de notre cas en particulier, mais pour parler de ce que ça représente, c'est-à-dire la criminalisation du mouvement de solidarité avec la Palestine, mais aussi l'expression d'une radicalisation autoritaire du gouvernement français depuis des années, et dont les dissolutions administratives en sont une des nombreuses expressions.
Yes, et du coup, là, l'audience, c'est lundi, c'est ça ?
Exactement.
Et est-ce que vous appelez du coup à des rassemblements, enfin quel niveau de, enfin vous appelez à des formes de solidarité en soutien quand même par rapport à l'audience et tout ?
Oui, alors il y a une pétition qui est en ligne sur notre site internet palestinevaincra.com. Il y a une initiative unitaire qui est en train d'être organisée à Toulouse qui sera une manifestation pour dénoncer notre dissolution. Donc on invite évidemment toutes les personnes, organisations qui sont attachées à la fois à la liberté d'association et à la fois à permettre que les organisations soutiennent le peuple palestinien, à faire des communiqués, organiser des actions, etc. Et après, nous, ce qui nous semble aussi important de dire, c'est que la meilleure manière de nous soutenir, c'est de s'engager dans la solidarité avec la Palestine, et notamment dans la solidarité avec Georges Ibrahim Abdallah, parce que c'est notamment parce qu'on est engagé en soutien à ce militant libanais qui est enfermé en France depuis 40 ans que l'État veut nous interdire. Et il y a notamment une grande marche qui est organisée par la campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah le 8 février prochain à Paris. Et ça doit être aussi un rendez-vous qui dénonce la criminalisation du mouvement de solidarité avec la Palestine, en plus d'exiger sa libération à lui, parce que c'est un pur scandale d'État qu'un communiste libanais pro-palestinien soit en prison en France depuis maintenant plus de 40 ans.
Yes. Bah ouais, en vrai, s'il y a des gens qui nous entendent, qui sont autour de Paname et tout, bah il y a cette date du 8 février. Et est-ce que tu veux revenir un peu sur comment ils essayent de vous dissoudre, sur les arguments et tout ou...
Oui, c'est une vieille campagne qui a été d'abord menée par l'extrême droite pro-israélienne et israélienne. En 2021, l'État d'Israël nous a classé comme organisation terroriste. S'en est suivi toute une campagne de lobbying par des officines israéliennes et pro-israéliennes en France. Et finalement, le décret de dissolution, bon, il y a comme dans d'autres affaires de dissolution, la question de la modération de commentaires sur les réseaux sociaux. Mais on va dire le fil principal, c'est leur volonté de criminaliser l'antisionisme, notamment autour de la question du boycott d'Israël. Et aussi autour de la question que notre position à nous en tant qu'anticolonialiste, c'est revendiquer le démantèlement d'Israël en tant qu'État colonial et défendre la perspective d'une Palestine libre et démocratique de la mer au Jourdain, ce que eux assimilent à une forme d'antisémitisme. Et chose qui est peut-être même plus grave, c'est qu'ils nous accusaient d'incitation à des actes terroristes parce qu'on soutenait et parce qu'on soutient toujours des prisonnières et des prisonniers politiques palestiniens, Georges Abdallah évidemment, mais plus largement les milliers de prisonnières et prisonniers qui sont détenus dans les jeux de l'occupation israélienne. Donc ça, c'était les chefs d'inculpation qui étaient mis en avant dans le dossier de dissolution. Le référé qui a suspendu la décision a battu en brèche ses positions, a considéré que notre expression n'était pas une incitation à la haine, à la discrimination et à la commission d'actes terroristes. Donc on a quand même espoir que cette nouvelle audience au Conseil d'État suive la première décision. Mais ça s'inscrit quand même dans un contexte particulièrement difficile aujourd'hui en France. Évidemment pour le mouvement de solidarité avec la Palestine, parce que il y a quand même une criminalisation qui s'est intensifiée depuis octobre 2023 avec des gens qui peuvent avoir des peines de prison avec sursis pour des discours dans des manifestations, avec des inscriptions au fichier antiterroriste. Il y a des personnalités qui peuvent avoir des procès pour apologie parce qu'ils ont fait un tweet pour dire que Israël était monstrueux ou voilà. Donc il y a quand même un climat extrêmement répressif et qui concerne en réalité l'ensemble de celles et ceux qui s'opposent à la France en tant que puissance impérialiste et coloniale. Ça rentre évidemment en écho avec le mouvement Kanak et pour la défense de leurs prisonniers politiques. Mais c'est aussi le cas pour le mouvement antifasciste où on a eu la GAL à Lyon qui a été interdite. Là, on voit les menaces de dissolution contre la Jeune Garde. Ça a été aussi le cas pour le mouvement écologiste avec les soulèvements de la Terre. Donc nous, face à ça, on pense que ce qui est important, c'est de faire front ensemble. Voilà, parce que pour nous, une attaque contre l'un d'entre nous, c'est une attaque contre tous. Et donc il faut faire en sorte que les uns et les unes et les autres soient pas isolés quand ils sont criminalisés et réprimés par l'État. Et on doit faire la démonstration de notre solidarité de manière conséquente face à ça.
Ouais. Et ce que tu disais par rapport à, enfin que en fait le mouvement de, enfin la criminalisation de la solidarité avec le peuple palestinien, elle s'est vraiment intensifiée depuis le 7 octobre 2023. Et en fait, ce qui se passe dans votre cas, si je comprends bien, c'est que la dissolution par le gouvernement, elle intervient en 2022. Mais par contre, là, à l'audience, ils vont pouvoir rajouter des trucs qui se sont passés depuis et que c'est une des différences entre une instruction au pénal où ils peuvent pas rajouter de bail, alors que là, ils ont aussi eu le temps de taffer un dossier en rajoutant des trucs et tout pour votre audience de lundi.
Alors, normalement, non. Ils doivent s'appuyer que sur le dossier de dissolution de 2022. Mais évidemment, c'est un des enjeux. Il y a plusieurs organisations pro-israéliennes qui sont intervenantes volontaires et qui ont systématiquement fait des dossiers sur la séquence post-octobre 2023. Mais indépendamment de la question technique, évidemment, il y a un contexte politique général aujourd'hui dans lequel s'inscrit l'audience et que, évidemment... Parce que si l'audience arrive aujourd'hui, c'est pas un hasard. On a eu la date de l'audience le lendemain de la mise en place du cessez-le-feu à Gaza. Donc il y avait quand même cette volonté de la part du Conseil d'État, évidemment, de s'extraire de la séquence. Mais il n'y a pas de doute que ça va être un des enjeux dans l'audience qui arrive. Et ça sera de toute façon compris dans ces termes-là en fonction de la décision qui sera prise.
Ouais. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on voulait surtout faire, c'est annoncer là les mobilisations que tu disais, et avoir un peu une attention sur l'audience de lundi. Et on pense qu'on essaiera de refaire une émission où on parle un peu plus précisément de la criminalisation du mouvement de solidarité avec la Palestine. Mais peut-être tu veux rajouter quelque chose ce soir, si t'as des choses à rajouter.
De dire que c'est important de se mobiliser et en particulier en soutien à la résistance du peuple palestinien, parce que là il y a un cessez-le-feu qui est fragile à Gaza, mais on voit qu'il y a le développement d'une offensive militaire israélienne dans toute la Cisjordanie et notamment à Jénine où il y a une offensive de grande ampleur qui a fait déjà des centaines de morts parce qu'elle a commencé il y a des mois. Donc ce week-end il y a des mobilisations partout en France ce samedi. Hein, en soutien à la Palestine, donc il faut être présent dans ces manifestations et il faut porter et dénoncer la criminalisation de la solidarité. Donc évidemment, notre dissolution, mais plus largement en soutien à l'ensemble des personnes qui sont réprimées et inculpées. Et donc les prochains rendez-vous, c'est samedi prochain à Toulouse, il y aura une grande marche unitaire contre notre dissolution et en soutien à la Palestine. Et le 8 février à Paris, en soutien à Georges Ibrahim Abdallah, qui incarne de la manière la plus caricaturale la complicité de la France avec Israël.
Ouais, et du coup, il y a la pétition qu'on peut trouver en allant sur votre site.
Ouais, sur palestinevaincra.com.
Ok, trop bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir appelé, c'était un peu rapide, mais du coup, on se tient au jus pour faire un truc un peu plus long sur la criminalisation du mouvement de solidarité.
Avec plaisir et merci à vous.
Trop bien, salut.
Petit canac, ne fais pas attention à ceux qui te dénigrent. Tu t'en sortiras même s'ils veulent te pousser dans le vide. Tu es ici chez toi, même si certains pensent le contraire. Tu es ce que tu es et ton nom te rattache à ta terre. Je te le dis, sois fier de ton identité. Reste le même et affirme-toi en crachant la vérité. Prouve à tous que ce qu'ils font toi aussi, tu peux le faire. Et si ça les énerve, dis-toi que tu représentes pour tes frères. Ce putain de système veut ta perte et tu le sais. Issu d'un peuple colonisé, tu en seras toujours traumatisé. Mais cela, certains refuseront toujours de l'admettre. Excuse ma vulgarité, mais qu'ils aillent tous se permettre. D'ailleurs, tu n'as pour maître que ton père et ta mère. La famille, c'est sacré, et c'est ton tout premier repère. Et si tu erres sans raison, ressaisis-toi de suite. Évite de déconner ou les flics se lanceront à ta poursuite. Et si, victime de l'échec scolaire, tu ne comprends pas, ne t'en veux pas, car tu n'es pas le seul dans ce cas. Je sais bien que s'adapter n'est pas si facile. Ce système n'est pas le nôtre et il nous prend pour des débiles. Je te conseille d'ouvrir des livres et t'abreuver de savoir. Cherche à comprendre ce monde, à commencer par ton histoire. Si tu rêves de victoire, bats-toi pour y accéder. Avec du taf et de la chance, tu pourras y arriver. Petit canard, reste humble, se la péter, ça sert à rien. Je te le dis, c'est ridicule et ça déshonore les tiens. Car rien ne vaut l'humilité qui caractérise les nôtres. Rien ne vaut nos vraies valeurs, donc ne fais pas comme les autres. Respecte tes potes et frères, des autres airs coutumières. Car dans le fond, ça sert à rien de toujours se faire la guerre. À qui cela profite? Pas à nous dans tous les cas. J'écris canard qui unity. Petit canard, l'entends-tu pas?
Petit canard, entends ma voix, car j'entends tes cris. C'est à toi que je m'adresse, car je m'inquiète pour ta vie. Alors tends l'oreille ou tends-moi juste la main. Si je te parle ainsi, c'est que je pense à demain. Petit canard, entends ma voix, car j'entends tes cris. Si tu me dis Kanaki, je te dirai Unity. Petit canard, je suis comme juste ça. Je me bats pour les autres.
Alors surtout ne laisse jamais personne divisé. Car comme tu le sais, notre force viendra de notre unité. Je sais que tu feras l'effort d'agir comme il le faut afin de rester digne et d'honorer notre drapeau. Bats-toi pour nos idéaux sans commettre l'irréparable. N'oublie pas que tes actes seront jugés par tes semblables et par les autres aussi. Donc évite de te salir, réfléchis avant de l'ouvrir et surtout avant d'agir. Écoute, car je te parle pour que tu comprennes que la vie est ce qu'on en fait et que tu en tiens les rênes. Tu sais d'où que tu viennes, je t'en prie, reste le même. Que tu évolues en tribu ou dans la jeune urbaine, les problèmes restent les mêmes car rien n'est facile. J'en place une au passage pour tous nos frères en exil de la grande terre aux îles. Mon message, je colporte au fur et à mesure. Ma parole devient forte, mais bon, libre à toi de faire ce que t'en veux. Moi je l'ouvre pour les nôtres, pour qu'un jour tout aille mieux, pour qu'un jour on s'en sorte et qu'un jour on soit fort. Et j'espère voir ça avant les jours de ma mort. Je suis venu péter le score, mais plus rien ne m'amuse. Et en pensant à nos leaders morts, leur système j'accuse. Mais ce qui est écrit est écrit, je ne fais que le dire. Faut qu'on aille de l'avant, donc prépare ton avenir. Petit canard, nous sommes pareils, malgré nos différences et malgré nos divergences. Faisons preuve d'intelligence.
Vous êtes toujours à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur FPP 106.3. On rappelle rapidos les contacts principaux.
Ouais, alors pour nous écrire, c'est fpp-l'envolée au 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris. Et pour nous appeler en direct, c'est au 01 40 05 06 10. Et sur le portable, donc ça c'est toute la semaine, au 07 53 10 31 95.
Voilà, et du coup là on est avec Julie pour faire un grand point sur la situation à la fois en Kanaky et en métropole du coup. Du coup on s'était dit qu'on allait commencer un peu par remettre dans le contexte, parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas trop revenu dessus, et voir un peu la répression actuelle qui continue en Kanaky.
Ouais, alors juste pour rappel, pour que bon, tous ceux qui ont peut-être pas les éléments, mais pour comprendre le contexte en Kanaky, bon, je rappelle que la Kanaky, Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire du Pacifique, c'est un archipel. Qui est sur un territoire qui sur la liste des pays à décoloniser depuis 86. Et donc c'est pas la France, c'est un territoire non autonome, mais c'est pas du tout un département français et tout. Et la France, elle est que puissance administrante pour accompagner le processus de décolonisation. Et en fait, depuis 98, il y a eu l'accord de Nouméa. Donc c'est un accord qui a été signé pour déterminer le processus d'autodétermination, donc avec trois référendums qui étaient prévus de consultation. Et donc il y a eu le premier référendum en 2018, le deuxième référendum donc où le nom à la pleine souveraineté, ben du coup c'est le nom qui avait emporté, sachant qu'il y avait beaucoup de Kanaks qui n'étaient pas inscrits sur ces listes-là. C'est pourquoi l'USTKE n'avait pas participé du coup n'avait pas appelé à la participation. Au deuxième référendum, il y avait du coup des inscriptions, pas mal d'inscriptions au niveau Kanak. Et deuxième référendum s'est passé en 2020. Il y a une très forte poussée indépendantiste et ça s'est joué à 9000 voix près en fait l'indépendance. Donc là, la France a quand même bien bégayé, et aussi les colons sur place, hein, les partis de la droite coloniale sur place. Et en fait, on s'attendait au troisième référendum 2 ans après. Et en plein Covid, l'État français a imposé la date de décembre 2021 pour la troisième consultation, alors que l'ensemble des mouvements indépendantistes, le Sénat coutumier, enfin tout le côté Kana, qui est quand même le peuple d'origine et qui est reconnu comme premier pour s'autodéterminer pour le territoire, n'a pas participé. Et donc l'État français n'a pas voulu décaler la date, sachant qu'il y avait la question du deuil coutumier et les gens n'allaient pas participer dans tous les cas. Et donc en 2021, donc sans participation du peuple Kanak, le troisième référendum est passé. Donc ça a été bien sûr le oui à rester dans la France. Mais en fait, c'est un référendum qui a été volé. Et donc, du côté du mouvement indépendantiste, il y a la revendication du fait que le troisième référendum ne s'est pas passé. Et donc, on ne peut pas sortir de l'accord de Nouméa pour le moment. Et il y avait une pression de l'État français pour justement pousser à sortir en disant le troisième référendum a eu lieu, etc. Sachant qu'au niveau des Nations Unies, le territoire reste sur la liste des pays à décoloniser. Donc, finalement, le troisième référendum n'est pas reconnu pour le moment en tant que tel. Et donc l'État français fait comme s'il avait déjà eu lieu, la droite locale pareil, et a poussé donc en 2023 à un texte, un passage en force d'un texte de loi pour l'ouverture du corps électoral. Donc le gel du corps électoral, c'était dans les accords de Nouméa, c'est-à-dire que toute l'immigration récente en Kanaky, toutes les personnes qui arrivaient en Kanaky n'allaient pas voter justement ni au provincial, n'allez pas voter au provincial, c'est les provinciales qui déterminent après les élus pour le congrès de Nouvelle-Calédonie, puisqu'il y a un congrès local. Donc il faut savoir qu'en plus, c'était à la tête donc, du congrès, c'était de façon historique, entre le deuxième et le troisième référendum, c'est un indépendantiste kanak qui est arrivé à la tête, donc c'était aussi une manière de vouloir le désinguer. Et donc, ce passage en force, du coup, du côté indépendantiste, il y a une grosse mobilisation. Et à partir de novembre 2023, il y a eu la création sur le terrain de la cellule de coordination des actions de terrain qui rassemblait les différents courants indépendantistes pour sensibiliser la population sur le territoire contre justement ce dégel du corps électoral qui allait ouvrir à 25 000 électeurs d'un coup. Donc, les mobilisations, elles ont pris de l'ampleur. On en a parlé dans les émissions précédentes. Avec un point culminant le 18 avril où il y avait sur tout le territoire en gros 80 000 personnes qui sont descendues dans la rue, sachant que les Kanaks sont à peu près 120 000. Donc c'est juste énorme en fait, ça, c'est du jamais vu. Et donc voilà, mais ce qui s'est passé, c'est que depuis le 13 mai, le 14 mai, c'était le vote à l'Assemblée nationale du passage de cette loi. Donc déjà la répression, elle avait commencé le 21 février. C'est le début de la répression et il y a deux camarades militants de la CCAT qui avaient été arrêtés et qui ont pris deux enfermes déjà. Donc c'était le premier début de répression et puis après en fait à partir du 13 mai il y a eu un rapport de force qui s'est quand même accentué sur place où l'USTKE a appelé à une grève dans deux fédérations assez stratégiques, c'était la Fédération des ports et docks, gens de la mer, et la Fédération des transports aériens et terrestres. Donc ça a été suivi à plus de 90%, donc tout a été bloqué à part les arrivées commerciales. Donc ce qui a quand même mis une pression, et il y a eu une volonté de l'État de provoquer quelque chose, et donc des forces de l'ordre sont parties dans le quartier populaire de Montravel, quartier où majoritairement Kanak et de population Kanak et océanienne qui habitent là. Et donc il y a eu des tirs de flashball en direction de jeunes Kanaks qui simplement étaient dehors avec un drapeau de Kanaky. Et à partir de là, c'est ce qui a un peu été l'étincelle qui a fait embraser aussi Nouméa dans les différents quartiers populaires de Nouméa. Et à partir de là, la répression, elle a été terrible en fait. Avec une militarisation sur place qui a été énorme. Il y a eu aussi des milices racistes et coloniales qui se baladaient armées avec des armes de guerre en pick-up en direction des quartiers populaires qui, eux, ont monté des barrages et se protégeaient aussi de l'entrée de ces milices. Il y a eu des tirs à balles réelles. Et pendant plusieurs jours, ça a été, il y a eu des émeutes. La jeunesse Kanak qui est discriminée, stigmatisée et c'est elle qui s'est soulevée qui a finalement, dans ce mouvement-là, imposé une suspension du passage de la loi, même si elle avait été votée à l'Assemblée. Donc, à partir de là, cette répression, la militarisation, elle a été sur tout le territoire. Il y a eu, en plus des 4 000 militaires sur place, il y a eu des envois de renforts énormes. La Kanaky a été bouclée pendant à peu près un mois et demi. Personne ne pouvait y aller. Même les journalistes ne pouvaient pas s'y rendre. Donc voilà, et donc il y a eu en chiffres à peu près sur plusieurs semaines, parce que ça n'a pas été juste sur quelques jours. Il se trouve qu'il y a eu quand même une dizaine de jeunes Kanaks qui ont été tués par balles, notamment aussi par ces milices. Donc c'est des assassinats extrajudiciaires. Voilà, et jusqu'à maintenant, on attend toujours que ces enquêtes elles avancent. Je reviendrai tout à l'heure parce qu'il y a un dossier qui a été classé comme par hasard. Enfin, non, pas comme par hasard, justement, c'est la justice coloniale. Et donc, au niveau des chiffres, ce qu'on a à peu près sur ce qui s'est passé en mai-juin, on est à plus de 3000 arrestations qui ont eu lieu. Plus de 3000 arrestations rapportées à la population kanak, c'est juste énorme. C'est comme si en France, on avait 1,5 million de personnes qui se faisaient arrêter, quoi. Il y a un collectif sur place qui s'est monté, le comité de solidarité aux prisonniers politiques de Kanaky, qui a fait tout un travail de recensement aussi des personnes qui passaient en justice, les comparutions immédiates, etc. Il faut savoir que la défense aussi juridique, elle a été très compliquée parce qu'il y a très peu d'avocats sur place qui défendaient qui acceptaient de défendre des Kanaks. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont passées sans défense aussi. Et il y a même eu une tribune du barreau de Nouméa de 38 avocats. On en avait parlé à une émission qui était vraiment un torchon et qui stigmatisait le mouvement, qui stigmatisait la jeunesse et qui disait qu'il ne pouvait pas défendre des personnes qui avaient menacé leur famille. Enfin bon, c'était assez hallucinant. Et du coup, on est à. Aujourd'hui, dans les chiffres qu'on a, il y a près de 2500 gardes à vue qui ont eu lieu. Il y a près de 500 déferments en comparution immédiate qui ont eu lieu et on est à plus de 200 mises en préventive. Donc voilà, et près de 500 peines alternatives qui ont été prononcées. Donc ces peines-là, en fait, déjà les plus de 3000 arrestations qui ont eu lieu, en fait, ça a été une manière aussi pour l'État de déjà ficher tout le monde, clairement. Et puis là, toutes les peines, les près de 500 peines alternatives à l'enfermement, à la prison, ça a été des travaux, des tiges, quoi, des travaux d'intérêt généraux, mais aussi des interdictions de manifester, des assignations à résidence avec des privations de liberté qui sont assez généralisées, quoi. Donc là, on en est à peu près là sur les chiffres là-bas sur place. Et sinon, toujours vis-à-vis de la répression. Du coup, en juin, il y a eu aussi l'arrestation de militants, des mises en examen avec des accusations extrêmement lourdes. Donc des militants de la CCAT, donc la CCAT était criminalisée sur tous les médias comme étant des terroristes. Au début, il y avait eu ça hein, de la part du Auxerre. Aujourd'hui, les accusations, ce pourquoi les personnes ont été arrêtées, mises en examen, c'est pas du tout des accusations. Juridiquement, c'est pas du terrorisme. C'est de l'association malfaiteur avec des accusations criminelles, mais en leur mettant tout ce qui s'est passé à Nouméa sur le dos, dont un gendarme qui s'est fait tuer alors qu'ils n'y sont pour rien. Et ça n'a rien à voir avec leur activité politique, sachant que la CCAT avait toujours appelé à des manifestations pacifistes, etc. Et même la CCAT s'est fait déborder par les émeutes et tout, quoi. Donc voilà, ces personnes-là, elles ont été déportées en France. On y reviendra tout à l'heure. Donc il y a eu 11 arrestations avec mise en examen de ces militants-là. Il y a eu aussi, après, deux autres personnes. Donc ça fait 13 à peu près. Et il y a eu 7 personnes parmi elles qui ont été déportées sur le territoire français. Au niveau du CSPPK et de la CCAT, les personnes qui sont considérées comme prisonniers politiques aujourd'hui, c'est celles qui ont été arrêtées pendant les mobilisations sur place, pendant les manifestations, etc. Et aussi celles qui étaient sur des barrages. Les barrages qui étaient tenus à différents endroits de Nouméa et du Grand Nouméa et dans d'autres villes. Par contre, tout ce qui est du pillage, etc., de certains lieux, ils n'ont pas pris en compte les personnes sous le titre de prisonniers politiques, quoi. Donc, en gros, il y a 56 personnes prisonnières en tout, revendiquées prisonniers politiques par la CCAT. Voilà.
Un truc qu'on avait pas mal lu dans la presse à l'époque, c'est quelques comptes rendus de comparution immédiate de personnes qui avaient été arrêtées. Et ouais, quand justement c'était des inculpations qui n'étaient pas liées au barrage ou quoi, en fait il y avait un fort truc de dépolitisation de la part des juges et des procs qui disaient non mais en fait vous n'êtes pas des indépendantistes, vous n'êtes pas des militants, vous êtes... vous êtes des délinquants qui pillent les magasins, quoi. Il y avait un truc comme ça pour condamner en masse.
Ouais, et puis faut se rendre compte aussi que la justice en Kanaky, c'est vraiment une justice coloniale dans le sens où les peines pour les mêmes faits, quand on passe devant un tribunal ici, Pour les mêmes faits, les peines sont beaucoup plus lourdes déjà, étaient, même avant les mobilisations, elles étaient déjà énormes. Et au camp Est, les personnes qui étaient incarcérées, les condamnées, en fait, même avant les mobilisations, en fait, c'est 90% de Kanaks. Le reste du pourcentage, c'est des Océaniens. Et voilà, c'est vraiment une question de classe et une question coloniale, la question carcérale en Kanaky. Et le camp Est, c'est l'ancien bagne aussi. C'est le bagne historique qu'il y a toujours eu, quoi.
Ouais, et puis la tribune d'avocat là dont tu parlais tout à l'heure, en fait, elle était très très claire sur de quel côté est la justice dans cette histoire, quoi.
Carrément.
Parce que finalement, les personnes qui sont passées en compas ou en procès se sont retrouvées devant un appareil judiciaire dont les gens sont des loyalistes favorables au rattachement de la Nouvelle-Calédonie à la France. Donc en fait, je crois que tu nous avais dit à l'époque qu'il y a une seule avocate kanak qui exerce.
Non, il y a plusieurs. Il y a deux avocats kanak sur place. Après, il y a des cabinets qui sont solidaires, mais qui sont pas énormes. Hein. Ça se compte sur les deux doigts, d'une main, hein. Des deux mains, pardon. Mais enfin voilà, c'est vraiment très peu par rapport aux besoins qu'il y a sur place et par rapport aussi non seulement les besoins de façon générale, mais là par rapport aux mobilisations. Et puis, au-delà du fait qu'il y ait eu des gens arrêtés, il y a eu aussi des exactions qui se sont passées, et donc où les gens ne sont pas forcément arrêtés, mais ont subi des choses de la part de milices, de la part de forces de l'ordre sur place, quoi. Mmh. Avec des descentes dans les maisons, avec des bombes de désencerclement qui arrivaient sur les toits, des incendies, des tabassages, dans la rue. Enfin, c'était vraiment extrêmement violent, quoi.
Et il y a même des territoires qui ont été complètement bouclés par
Exactement.
Les keufs, le territoire de Saint-Louis.
À Saint-Louis, pendant des semaines. Il y avait carrément checkpoint hein, pour pouvoir accéder. Les enfants, ils allaient à l'école, ils se faisaient fouiller les sacs des enfants d'école primaire. Il y a eu deux morts d'ailleurs dans le coin de Saint-Louis, dans des conditions très suspectes, avec des morts par balles, dans des conditions très suspectes, avec les pantalons descendus, etc. Enfin voilà, c'est extrêmement violent et c'est toute une génération qui aujourd'hui est marquée en fait par cette violence coloniale et c'est un traumatisme, quoi.
Et tu disais donc à Caen Est, c'est 90% de Kanaks et 10% d'Océaniens qui sont enfermés.
Ouais.
Et peut-être on voulait revenir un peu sur comment ça se passait à Caen Est.
Du coup, au Caen Est, déjà, il y a une surpopulation qui est déjà énorme. Avant même le mouvement, enfin avant même le 13 mai. Et il y a des quartiers, les personnes elles sont enfermées dans des containers maritimes. Voilà, avec une très petite fenêtre pour respirer, etc. Avec des personnes qui dorment par terre. Il y avait eu des rapports hein, du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui avaient été faits. Il y a l'OIP aussi qui avait fait des rapports sur la situation au camp Est. Et d'ailleurs, il y a eu une plainte et donc l'État a été condamné grâce au dossier de l'OIP en octobre sur le fait qu'il n'y ait pas eu d'amélioration le temps où il y a eu des rapports et notamment du CGLPL, le contrôleur des lieux de privation de liberté, et que ce temps écoulé n'était pas acceptable. Et du coup, il y a eu une condamnation récente de l'État là-dessus. Voilà, il y a aussi la situation de façon générale, tout ce qui est médical au camp Est. Bon, il y a une infirmerie, mais en fait, si les personnes elles demandent d'avoir un pansement ou des choses assez immédiates, elles attendent une semaine. Par contre, pour voir un psychiatre et se faire cachetonner, c'est tout de suite, quoi. Ça, c'est des témoignages qu'on a régulièrement. Et ça participe en fait à toute la violence qu'il y a à l'intérieur, quoi. Le quartier mineur, c'est horrible. Il y a quasiment pas d'éducateurs qui viennent sur place et la nuit ils sont tout seuls dans tout le quartier. Mmh. Et c'est les matons qui font les rondes dans les autres quartiers qui passent une fois de temps en temps dans la nuit toutes les deux ou trois heures, mais sinon ils sont tout seuls. Enfin, c'est assez horrible. Ouais. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'atelier, il n'y a rien au camp S, quoi.
Et justement, quand la Kanaky était bouclée suite aux émeutes et tout, c'était particulièrement dur à Caen Est.
C'est ça, en fait, il y a eu des mutineries. Déjà, quelques jours avant le 13 mai, il y a eu une mutinerie au Caen Est où les détenus se sont révoltés sur leurs conditions à l'intérieur, mais aussi savaient aussi ce qui se passait à l'extérieur. Et après, il y a eu des mutineries qui se sont poursuivies par ailleurs. Donc, il y a eu l'intervention du GIGN, du RAID, Il y a eu un renfort des Eris qui a été énorme à l'intérieur et une répression féroce, quoi. Des tirs de flashball, le gazage. Alors, par recoupement, par différents témoignages qu'on a pu avoir, on sait aujourd'hui, et l'OIP aussi le sait, des enquêtes qu'on a pu faire par différentes sources, par nos moyens, que en fait, il y a eu sur plusieurs semaines, ça a été véritablement l'horreur à l'intérieur du camp Est à partir après le 13 mai. Bon, déjà, les personnes, les quantités de nourriture, elles ont été réduites considérablement. Donc, les détenus, ils ont été affamés pendant des semaines. Il y a eu des tabassages en règle dans les cours, avec sortie des détenus, ouverture des cellules, tabassage en règle. Des gens nous ont. Enfin, on a eu des témoignages comme quoi des personnes ont été traînées au sol sur des tessons de bouteilles. Des témoignages de détenus ou intervention des Eris, ouverture de cellules, tabassage un par un, et puis se font prendre, mettre des serflex au poignet ultra serré pendant des heures ou les mains qui gonflaient et mis dans une pièce remplie de pisse. C'est vraiment. Et par ailleurs, on a eu des témoignages qui nous sont revenus et on le sait, en mai, il y a eu un détenu qui est décédé au camp Est. Et ça, par contre, cette information-là, elle n'est pas sortie dans les médias. Et nous, de notre côté, on prépare un communiqué qui sortira. Et voilà, c'est un jeune qui sera originaire de Canala. Des témoignages qu'on a eus auraient subi des mauvais traitements et suite à tabassage seraient décédés d'une hémorragie. Donc ça c'est des témoignages qu'on a pu avoir par différentes sources. Et aujourd'hui c'est tout ça en fait où à un moment donné quand on réclame justice et des enquêtes et vérité, c'est aussi sur l'intérieur de la tôle, quoi. Il y a eu 80 cellules à peu près qui ont été brûlées aussi. L'infirmerie était totalement fermée, les parloirs étaient suspendus. Il y a eu une centaine de prisonniers qui ont été transférés sur la prison de Coney, qui est une prison assez récente au nord de l'île, de la Grande Terre, où, soi-disant, c'est pour privilégier. En fait, ils prennent un peu tous ceux qui ont un bon comportement, etc. Et, soi-disant pour de la réinsertion professionnelle. Mais en fait, ça a été une manière aussi de construire un nouveau centre pénitentiaire pour enfermer encore plus. Il y a eu beaucoup de. Du coup, les prisonniers se sont retrouvés dans d'autres cellules, ils ont été transférés de quartier à quartier. Enfin, voilà, c'était vraiment. Le camp S a été militarisé aussi autour, avec l'armée. Et puis, il y a eu des déportations, quoi. Il y a eu des prisonniers qui ont été déportés de façon forcée en France. Je ne sais pas si, du coup, on aborde cette question-là tout de suite, mais
Peut-être on voulait juste peut-être rajouter un mot sur les politiques sociales
Où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau du contexte en Kanaky? Au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, la loi qui devait passer après au Congrès de Versailles pour être validée, elle est suspendue. Mais par contre, depuis, il y a une pression de l'État pour faire passer un accord global en Kanaky. Donc, il continue dans sa lancée. Et là, aujourd'hui, alors que le gouvernement en Kanaky avait quand même montré que c'était possible d'avoir un budget autonome pendant 2 ans, on revient sur des questions de financement par l'État français, de reconstruction, puisqu'on est dans une catastrophe quand même économique et sociale et tout. Mais du coup, c'est à double tranchant, en fait. Tout le monde n'a pas la même vision des choses, en fait. Certains disent, c'est à l'État de reconstruire, parce qu'il est responsable, en fait, de tout ça. Bien sûr que l'État, il est complètement responsable de la situation aujourd'hui en Kanaky. Après, ça veut dire aussi investissement de l'État avec quoi en contrepartie derrière, et on craint justement l'accord global. Et par contre, côté indépendantiste, c'est exiger la libération des prisonniers politiques tout de suite et qu'il n'y ait pas un accord ou quoi que ce soit de signé sans la libération. Dans tous les cas, des prisonniers. Donc les élections provinciales, donc ça, la question du dégel du corps électoral, ça va se reposer puisque c'est repoussé et ça aura lieu en 2024. Donc là, c'est en plein, il va y avoir une campagne aussi pour les provinciales. Hein, donc on va se retrouver dans la même situation que l'année dernière sur cette question-là. Et sinon, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a été dissous récemment. Donc là, il y a un nouveau gouvernement qui est en place. Et donc c'est la droite qui est maintenant en place. Et par contre, au niveau de la province sud... je voulais juste dire que, avec toutes les arrestations qu'il y a eu là, je voulais juste rappeler que, parce que droite coloniale, raciste, etc., ça me fait rappeler qu'en fait, pour tous les assassinats qu'il y a pu avoir sur les jeunes qui se sont fait tuer et les plaintes qui ont pu être déposées pour qu'il y ait des enquêtes, on voulait juste dire que, on ne s'attend pas vraiment à grand chose, une justice coloniale. Mais par contre, en décembre dernier, il y a un dossier qui a été classé parmi les jeunes qui se sont fait tuer, dont un jeune qui avait pris des balles le 23 juin à Caméré, qui était mort des suites de ses blessures. Et le dossier a été classé par le parquet à Nouméa en décembre dernier sous motif de légitime défense. Alors ce motif-là, il est utilisé régulièrement et nous, ça nous rappelle quand même... un moment historique en Kanaky, c'est le 5 décembre 1984 à Wanyat, près de la tribu de Tiendanit, dans la région de Oyengen, où il y a eu une embuscade par des caldoches en armes qui ont fait une embuscade sur deux voitures de militants, remplies de militants, qui rentraient d'une réunion et il y avait les deux frères de Jean-Marie Tchibaou qui étaient dedans. Il y a une tuerie, une dizaine de morts, plusieurs blessés. Et sur place, le procès qui a eu lieu, ça a été un procès qui était... Enfin voilà, ce massacre-là, il a été historique aussi. Et le procès derrière a été une grande mascarade. Déjà, les tueurs se sont rendus en disant « oui, on a tué ». Enfin voilà, donc on le sait très bien, il n'y a pas eu ambiguïté là-dessus. Mais le verdict, c'était légitime défense avec préméditation. Ce qui n'existe en fait pas du tout au niveau juridique. C'est juste pour dire qu'en fait, la justice coloniale, quand on est dans une situation d'un territoire colonisé, la justice de l'État colonial, elle ira toujours dans le sens de l'État colonial et elle fera, en fait, elle est capable de mettre justement des verdicts comme ça qui sont des délibérés qui ne veulent rien dire juridiquement, mais qui vont toujours dans le même sens. Et donc les gens n'ont pas été condamnés. Il faut dire que dans les tueurs là des personnes par rapport aux personnes qui sont fait tuer là en mai, il y en a un qui se balade quand même avec bracelet qui a été et puis ils sont pas inquiétés quoi, et les personnes qui se baladaient en pick-up avec des armes de guerre, elles n'ont jamais été inquiétées, au contraire elles ont été soutenues par la police, mais il n'y a pas eu que la police aussi a fait des exactions etc, mais a été soutenue par la police, par les forces de l'ordre. Dehors, on a des vidéos où ils étaient dehors, tranquilles, avec les forces de l'ordre à côté, et aussi protégés par des élus locaux, quoi.
Qui même participent un peu, des fois.
Et qui participent, notamment Gilles Brial, Philippe Blaise, qui ont été identifiés quand même avec des gens en armes et qui ont été identifiés avec ces personnes, et dont Gilles Brial, si je ne me trompe pas, qui avait tweeté méga avec une photo avec lui, avec un gilet pare-balles. Enfin bon, voilà, on en est là aujourd'hui. Donc là, en fait, le contexte politique, je reviens là-dessus, parce que le contexte politique aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui aujourd'hui sont à la province sud et à la tête de la province sud, notamment Sonia Backès, qui a un discours, et pas que elle, même le député de la première circonscription, Metzdorf, Nicolas Metzdorf, ils ont un discours complètement haineux, raciste, vis-à-vis du mouvement indépendantiste. Et Sonia Backès, du coup, là, il y a des politiques qui sont en train de se mettre en place dans la province sud, c'est carrément du ségrégationnisme, quoi. Empêcher, par exemple, faire passer là des circulaire, enfin je sais plus comment, de quelle manière ils l'ont. Il y a empêchement, par exemple là, d'inscrire des enfants à la prochaine rentrée scolaire. Là c'est l'été en ce moment, les grandes vacances vont se terminer, il va y avoir la rentrée scolaire, et donc là nouveau le nouvel arrêté, en fait, ben, les enfants des classes populaires qui ne peuvent pas justifier d'une domiciliation au nom de leurs parents ne pourront pas s'inscrire. Donc en fait, c'est carrément visé directement la population kanak et océanienne des classes populaires. Tous ceux qui sont dans des squats, tous ceux qui sont, et il y en a quand même pas mal à Nouméa, tous ceux qui sont hébergés en venant sur Nouméa, qui sont originaires d'une famille qui est assez éloignée et qui sont hébergés par de la famille sur Nouméa. Ça concerne aussi toutes les personnes qui, depuis en fait mai-juin, se retrouvent sans travail, parce qu'il y a plus de 20 000 chômeurs, nouveaux chômeurs en fait depuis juin. Qui ont été chassés de leur logement, quoi, parce qu'ils pouvaient pas payer leur logement. Donc en fait, c'est vraiment là, les politiques aujourd'hui, elles sont complètement en vue de ségréguer totalement et de discriminer la population kanak. Les transports sont ultra chers, les bus ils sont vides à Nouméa. C'est ultra cher, bien sûr, c'est pour aller dans les quartiers populaires aussi. Et enfin, qui peut se payer un ticket de bus aujourd'hui? C'est absolument énorme. Et autre chose, il y a un autre truc qu'elle essaye de passer et qui est assez ouf, quoi. C'est toutes les personnes, les victimes de violences conjugales, donc les femmes victimes de violences conjugales, doivent justifier de 10 ans de résidence dans la province pour pouvoir être suivies par des assistantes sociales. Donc si elles ne remplissent pas ce critère, elles sont renvoyées dans la province d'origine qui peut être à distance, qui peut être aussi dans le lieu où il y a le compagnon qui est violent, qui peut être, enfin voilà, c'est complètement inimaginable d'empêcher une femme victime de quitter une région pour se mettre en sécurité dans une autre région. Enfin, c'est juste. Donc voilà, on est là-dessus. Et donc mardi dernier, on était devant le tribunal de Paris parce que Christian Théin, qui est un des militants de la CCAT déporté ici en France. Qui, depuis août, il est le président du FLNKS, du Front de Libération Nationale kanak et socialiste, a porté plainte pour diffamation contre Sonia Backès, parce qu'il s'est fait traiter par Sonia Backès à la radio publiquement comme étant le chef de terroriste, quoi. Voilà. Donc il y a eu la première audience là, mardi. Il va y en avoir d'autres en avril, en juin, en septembre, le 23 septembre. Et je pense que le 23 septembre, on appellera à une mobilisation. C'est la veille du 24 septembre, date anniversaire de la prise de possession du 153 de la Kanaky. Le 24 septembre du 153. Et en même temps, les deux parties devront normalement être présentes. Donc voilà, et le jugement aura lieu en janvier 2026. Donc ça, c'est juste sur le dossier de diffamation. Donc voilà. Et la répression, bien sûr, elle continue, hein. La justice coloniale, elle est toujours...
Ça, on rappellera ouais, les dates quand ça arrivera et tout. Et juste par rapport à ce truc de politique sociale, avant qu'on parle des prisonniers qui sont ici, c'est vraiment le pendant de la répression policière et judiciaire, quoi. Donc, ils vont mettre plein de gens en prison dans des peines dites alternatives à la liberté, tout ça, plus la violence policière qu'il y a eu. Mais en plus, ils vont vraiment faire une sorte de punition collective, comme il y avait à Saint-Louis là sur le blocus. Mais de manière générale, Backès, je crois que c'était cet été, ils disaient un truc genre on va supprimer les aides sociales dans la province sud parce qu'on va quand même pas soigner des gens qui on fait des émeutes, sachant que gens qui ont fait des émeutes, du coup, en fait, ça désigne juste la population kanak de manière générale, quoi.
C'est ça, exactement. Et puis même sur les chômages partiels, ça va être compliqué là, à partir du début de l'année. Sur les retraites aussi, c'est déjà compliqué. Oui, il y a une vraie politique de casse sociale généralisée, quoi.
Mais pas pour toute l'île.
Voilà.
Du coup, peut-être on en arrive un peu aux déportés kanak qui sont fait envoyer en métropole. Ouais. Si tu veux, peut-être expliquer déjà aussi ce que vous avez fait, parce que ça éclaire aussi bien le processus lui-même.
Ouais. Alors, depuis mai, nous, on sait qu'on a eu des échos comme quoi, déjà le procureur à Nouméa a évoqué des déportations de condamnés de longue peine. Donc on s'est posé la question si ça allait être sur le territoire ici en France ou sur ailleurs ou sur d'autres territoires sous domination française. On s'est posé la question s'ils allaient être envoyés en Polynésie. quand on a eu des doutes, on a eu des échos d'arrivée de prisonniers. Et fin mai, en fait, déjà, il y a un député guyanais, David Riemann, qui a posé en commission des lois la question directement au président de la commission des lois s'il y avait eu de déportation ou pas. Et ça avait été répondu par la négative. Et en fait, il y a une volonté claire vis-à-vis de... Il y a eu plusieurs vagues de déportation de condamnés, de prisonniers kanak condamnés qui étaient au camp Est. En plus des 7 personnes qui étaient mises en examen là, de la CCAT. Et il y a une volonté claire de l'État de flouter en fait, tout traçage en fait, de ces déportations. Qui sont illégales. La Kanaky, c'est un territoire non autonome. On ne sort pas des ressortissants comme ça. On les envoie pas à 17 000 km de leur famille comme ça. Et par ailleurs, des différents témoignages qu'on a pu recouper, en fait, clairement, ces déportations, on nous a dit au départ, oui, mais il y en a, ils ont signé un papier, donc ils ont bien voulu, ils ont bien accepté. Mais ces déportations-là, c'est des déportations qui sont forcées. En fait, ce qui s'est passé, et ça, par recoupement, on le sait, des prisonniers ont été convoqués du jour au lendemain, là, comme ça, d'un coup, par le commandant sur place au camp Est, entouré des Iris. Ils se sont retrouvés tout seuls dans un bureau et on leur a dit « vous allez être transférés en France ». Donc là, le prisonnier, soit il accepte, soit il signe et il a une heure pour aller prendre des affaires, soit il signe pas le papier et en fait, il va être dans une salle d'attente, mais dans tous les cas, il va être transféré. Donc voilà, ça a été... nous, on a des témoignages de personnes déportées. Pour eux, ça a été terrible d'apprendre cette nouvelle-là, qu'ils n'étaient jamais partis de Kanaky, qui n'ont pas eu le temps de dire au revoir à leur famille, de se préparer, de rien du tout, quoi.
Ouais, ça, c'est un truc, dans plusieurs courriers qu'on a reçus, des personnes qui racontent vraiment ça, quoi, que c'était ultra rapide et qu'on leur a dit cash en mode soit tu signes, soit dans tous les cas, tu y vas quand ça. Même. Enfin, il y a vraiment.
C'est ça, et les familles n'étaient pas au courant. Ouais. Et du coup, nous, à Solidarité Kanaky, on a commencé à essayer de chercher, sauf que c'était très compliqué de pouvoir avoir des infos. Et finalement, on en a eu petit à petit, aussi par des proches de détenus. Ça a été un travail de fourmi. On a constitué un groupe de travail où on s'est entouré aussi de camarades qui ne sont pas forcément à Solidarité Kanaky, mais qui sont aussi sur des questions carcérales depuis un moment. Merci à l'Envolée aussi d'avoir fait des appels à la radio pour retrouver des prisonniers. Mais en tout cas, aujourd'hui, après plusieurs mois de travail là-dessus, on en est à une soixantaine de prisonniers qui ont été localisés. On est en contact avec plus de la majorité d'entre eux. Ils ont été dispatchés dans une quarantaine de prisons en France, dans des coins complètement perdus aussi. Et l'isolement, il a été hyper violent. Il y a plusieurs détenus qui se retrouvent, même la majorité se retrouve seule, kanak, en prison. Pour nous, ça a été clairement, même, on s'est demandé s'il allait y avoir des émeutiers dedans, qui attendaient de passer en jugement ou quoi. En fait, là, dans l'ensemble des listes qu'on a, pour le moment, ce sont des condamnés qui étaient déjà condamnés avant mai. Mais par contre, clairement, la position politique qu'on a eue, c'était que, quel que soit le pourquoi les personnes ont été condamnées et se retrouver en prison, leur dossier pénal, c'est pas notre problème. C'est juste qu'à un moment donné, on s'oppose à cette déportation. D'envoyer des personnes à 17 000 km de leur famille, qu'ils aient au moins un contact avec la famille, au moins du linge, au moins de quoi cantiner. Et ça, c'était un principe, ce pourquoi on travaille là-dessus, en plus du soutien aux prisonniers politiques qui ont été déportés ici. Après, plus largement, on peut considérer aussi que des mutins, c'est aussi une manière de se révolter et c'est aussi une manière de participer d'une manière ou d'une autre au mouvement qui était en cours, en étant à l'intérieur, dans les mains du système répressif et carcéral déjà colonial. Et d'avoir ce courage-là aussi de se révolter par rapport à leurs conditions. Et au-delà de ça, certains, c'était aussi par rapport à ce qui se passait à l'extérieur, quoi.
Ah, ça c'est clair, c'est un truc qu'on dit souvent ici, quoi, que les révoltes, sur les révoltes en prison. Et nous, on trouve ça chambé, comment vous avez fait ça, et aussi le fait de du coup pas faire de différence en fonction des dossiers et tout, parce qu'à la fin, c'est quand même des gens qui sont envoyés hyper loin de chez eux.
Après, on a toujours une discussion. Tout le monde n'est pas d'accord sur la qualification de prisonnier politique ou pas et tout ça, mais en tout cas. Une chose est claire, c'est que la solidarité, elle se construit, et elle se construit vis-à-vis d'eux aussi, vis-à-vis des condamnés de droit commun, entre guillemets, même si le terme, il est un peu... Mais voilà, quoi.
Bah nous, on dit souvent que tous les prisonniers sont politiques aussi dans cette optique-là, et c'est aussi un truc de l'état pénal de manière générale, mais surtout de l'état colonial, en fait, de dépolitiser des trucs, et donc après, faire le tri entre tout ça pour définir qui est prisonnier politique, qui n'est pas prisonnier politique. En fait, c'est aussi leur catégorie à eux, de dire qu'en fait, s'ils enferment la jeunesse kanak, c'est pas pour des raisons politiques, c'est parce que c'est des délinquants. En fait, regarder ça de manière politique, ça changerait un peu.
Voilà, après du côté kanak, du côté du mouvement indépendantiste kanak, eux, ils ont leur propre définition, et ils ont du coup la liste des personnes qui revendiquent en tant que personnes ayant participé au mouvement de démobilisation de la CAT, etc. Du coup, voilà. Oui, tout à fait. Complètement. Et puis du coup au-delà de ça, on se retrouve, les difficultés qu'on a pu rencontrer, déjà de les retrouver, de faire un gros boulot de recensement, ça a été énorme. Et puis après, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on sait où est un détenu, qu'on a le nom et la localisation, on envoie systématiquement un courrier pour déjà prendre contact, savoir si ça va, apporter un soutien s'il y a un besoin matériel, s'il y a un besoin d'avertir la famille que c'est bon, on a localisé la personne, etc. Donc tout le travail, il était là-dessus, et puis aussi de mettre en lien avec des avocats qui ont accepté de travailler avec nous gratuitement pour suivre en fait ces détenus, à la fois sur la question pénale de leur propre dossier, s'il y avait des choses, des suites à avoir ou autre, quoi, mais aussi sur la question de ce qu'ils ont pu subir en détention, et aussi sur la question du transfert. Certains demandent des retours, et voilà, et ça commence à bloquer. Donc la question du retour des prisonniers, nous, c'est une revendication claire qu'on a à Solidarité Kanaky, c'est qu'on revendique le rapatriement immédiat des prisonniers qui ont été déportés, et ceux qui le souhaitent, que ce soit immédiatement au cours de leur peine ou à la fin de leur peine, et que ce soit surtout à la charge de l'État. Là, il y a plusieurs détenus qui témoignent du fait qu'on commence à leur dire qu'il va falloir qu'ils économisent pour payer leur billet. Il y a un détenu qui devait être libéré. On lui a demandé si ça allait être ici ou à Nouméa. Il a demandé d'être libéré à Nouméa, et on lui a dit ce sera ses frais. Donc c'est sur toute cette question-là qu'il y a aussi un travail, et que nous, de notre côté, même si juridiquement, il n'y a peut-être pas les outils, mais nous, de l'autre côté, on considère que c'est une revendication politique qui doit être portée, et qu'on doit mettre la pression dessus, et qu'on va travailler justement sur cette question-là. Quoi.
Mais c'est en soi une vraie dinguerie qui paye pas un billet de retour, quoi, parce que c'est, les gens, ils ont été déportés contre leur gré, les billets d'avion, ils sont à plus de 1000 balles.
Ouais.
Donc en fait, que ce soit sur une paye de taf en prison, avant d'économiser 1000 balles, quand tu bosses un peu en prison, quoi, faut vraiment y aller. Et même libérer, en fait, ça veut dire travailler des mois en France, si tu trouves un travail et tout, pour mettre de côté assez, c'est vraiment une dinguerie.
Et puis en plus, même quand certains vont sortir, la question qui se pose aussi, c'est même pour travailler, hein, y a des problèmes, parce que le numéro de sécurité sociale, c'est un numéro de sécurité sociale qui est local en Kanaky. Et normalement, quand des personnes viennent en France pour du long terme, prépare en avance un numéro provisoire, etc., pour une carte vitale. En fait, pour travailler légalement sur le territoire, il faut un numéro de sécu, quoi. Et cette question-là, elle se pose clairement, quoi. Il y a des galères en ce moment là-dessus. Hein. Après, sur la question je sais que, par exemple, il y a des prisonniers corses. Des prisonniers qui ont été envoyés en France, quand ils sont libérés, c'est à leurs frais et tout ça. Après, donc c'est des choses aussi qui étaient remises en question par les camarades corses là-dessus. Après, la distance Paris-Bastia, c'est pas la même que... Même si dans tous les cas, les prisonniers qui sortent, ils sont en galère. la configuration, elle est encore pire, quoi. Et puis, au-delà de ça, une déportation d'une personne comme ça, ça a une répercussion individuelle pour la personne, mais pas seulement, mais aussi sur l'ensemble de la famille, et qui est déjà dans une situation sociale en Kanaky, pour la majorité, assez catastrophique, pour beaucoup. Donc, il y a des proches, là, qui... Donc, déjà, de ne pas savoir où est un proche, c'est déjà terrible.
Parce que là, ce que tu disais, pour rendre ça un peu clair, c'est qu'il y a des familles qui ne savent toujours pas.
Il y a des familles, ouais, il y a des familles qui aujourd'hui cherchent encore leurs proches et qui n'ont aucune nouvelle. Et que nous, du coup, on cherche aussi, on essaye de rentrer en contact, sauf qu'au niveau des prisons, dans les galères, justement, au niveau des prisons, si on ne fait pas partie de la famille, on n'arrive pas à avoir le numéro d'écrou. Et des fois, quand on envoie le courrier, sans le numéro d'écrou, ça n'arrive pas. Des fois, ça arrive, mais alors il y en a certains. Il y a certains détenus qui ne nous ont pas répondu. Donc, au début, on s'est dit, on ne va pas non plus être... imposant et tout, s'il faut, il y en a, ils ont juste pas envie de répondre. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'en fait, là, la liste qu'on a, il y a de moins en moins de détenus qui répondent pas. Et les détenus qui répondent pas, il y en a certains, mais on s'est rendu compte de certaines galères. C'est-à-dire qu'il y en a un, tout simplement, il y a un jeune, il n'était pas du tout en état de nous répondre. Son état de santé et psychologique n'était pas du tout propice. Et du coup, il y a même sa mère qui est venue ici. Qui a dépensé énormément pour pouvoir venir, s'est mis dans une situation de frais énormes, et qu'en fait son fils n'était pas du tout suivi au niveau psychiatrique, il avait des gros problèmes, il était hospitalisé en psychiatrie et en fait il était dans une situation mais terrible, quoi. Donc nous on a aussi ce problème là et puis il y a aussi d'autres détenus qui répondent pas parce qu'ils écrivent pas en français. Donc là, on se retrouve aussi avec cette question-là. Et puis après, il y a la question de quand la famille n'est pas sur place et pour les permis de visite, pour les dépôts de linge et tout, dans certaines prisons, elles sont hyper, c'est hyper restrictif. C'est tant qu'on n'a pas le permis de visite, on ne peut pas déposer du linge ou on ne peut pas faire un envoi de thunes. Dans d'autres, c'est assez simple, on le fait direct et tout. Et du coup, c'est un travail aussi de négociation avec le SPIP, tout ça, en disant que la famille, elle est loin, mais nous, on est là, on contacte avec la famille et tout. Donc, c'est un travail de longue haleine, quoi.
Puis, il faut voir le niveau d'isolement d'un déporté qui se retrouve en taule ici, qui écrit pas le français. Donc, déjà, toutes les démarches avec l'administration pénitentiaire sont super compliquées. En plus, que ses proches sachent ou pas qu'il est là, probablement pas de linge, pas de parloir. Ouais. C'est quand même un niveau d'isolement qui est,
Il y en a, ils sont arrivés en short et claquettes, quoi. Et qui se caillent, quoi. Enfin, c'est un truc, on a des écrits qui sont... Et du coup, les répercussions, ce que je voulais dire au niveau social et au niveau familial qui sont plus larges, c'est que du coup, il y a des familles qui s'endettent pour pouvoir venir voir leurs proches, donc pour pouvoir payer des billets qu'elles n'auraient jamais pu payer, qui se mettent à vendre des choses de leur maison, qui se retrouvent à vraiment être en une grosse galère, qui même en arrivant ici, qui ne sont jamais venus en France, certains, qui en arrivant ici aussi se galèrent pour l'hébergement, pour tout ça, quoi. Donc nous, après, on avait écrit aussi un guide pour les proches de déportés cet été, pour un peu expliquer la démarche pour les proches qui se posaient des questions, si déjà la démarche au niveau du camp Est, et puis après, si elles savaient ou pas que la personne était déportée. Donc on vous invite à aller voir le guide qui est en ligne sur le site de Collectif Solidarité Kanaky, solidaritékanaky.fr. Donc il est en ligne et il y a les numéros et tout dessus. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, on a quand même précisé dans le guide que déjà nous... en termes d'accompagnement, on essaye de faire ce qu'on peut, mais on ne pourra pas subvenir à des hébergements et tout, qu'il faut vraiment, on avertit les familles qu'il faut vraiment préparer en avance, qu'on peut mettre en lien avec des contacts, mais que nous-mêmes, en fait, c'est compliqué. On a facilité des choses pour certaines familles, mais on fait le maximum, même d'orientation, les services sociaux aussi, etc., quoi. Du coup, voilà, un peu en gros. Et bien sûr, tout ce qui est pour... on envoie donc de l'argent quand on peut aux détenus pour cantiner, au moins un envoi qu'on essaye d'assurer via en fait une association qui s'appelle Comité Justice et Liberté pour Kanaky, qui a accepté qui a fait une levée de fonds contre la répression et qui a accepté vis-à-vis des permanences qu'on tient à Solidarité Kanaky de travail pour les déportés de financer tout ce qui est au niveau linge, envoi du linge et de voir aussi pour cantiner, pour envoyer de la thune.
Et du coup, il y a une cagnotte peut-être qu'on voilà. voulait rappeler.
Alors du coup, il y a une cagnotte en ligne de justement de cet asso, Comité Justice et Liberté pour Kanaky. Vous écrivez ça sur internet et vous mettez Hello Asso. Et vous allez tomber sur la cagnotte Eloasso du Comité Justice et Liberté pour Kanaky.
Ouais. Voilà. Au niveau de la solidarité aussi, il y aura une soirée, peut-être après-soirée à la parole.
Je voulais juste dire un mot
c'est
avant.
C'est pas pour finir, ouais. mais c'est pour faire lien. Vas-y.
Ouais. Alors à la parole errante, vas-y.
Non, c'est justement pour ça. Je sais pas si tu veux l'annoncer. Du
non,
coup.
Non, vas-y.
Il y aura une après-midi soirée en solidarité avec la Kanaky à la parole errante le 15 février. Du coup, c'est juste pour l'annoncer aussi, même si on essaiera de le redire. Nous, on sera là aussi, donc venez.
Nous, on y sera aussi.
Voilà, trop bien.
Et non, je voulais juste dire que au-delà des déportés du camp Est, la question de la déportation, elle se pose de façon générale aussi par rapport aux 7 prisonniers politiques qui ont été déportés ici en France. Dans des conditions pareilles, hein, menottés dans l'avion, etc., dispatchés dans plusieurs prisons de France, isolés chacun. Et parmi les 7, il y a 2 femmes qui ont été libérées cet été, mais qui sont assignées à résidence, qui étaient avec bracelet, mais maintenant elles sont sans bracelet. Mais voilà, avec un territoire de circulation qui est quand même restreint. Et les demandes de remise en liberté ont été refusées. Et parmi les 11 qui étaient mis en examen, il y a un détenu qui est sorti, qui s'appelle Joël Chibaou. Par contre, lui, il était au camp Est. Donc voilà, et les dossiers sont toujours en cours. Et la même cagnotte, Justice et Liberté pour Kanaky, récolte aussi de l'argent pour les prisonniers politiques. Mmh. Et en lien aussi avec le CSPPK en Kanaky. Voilà. Et je voulais juste dire aussi que l'USTKE sur place à Nouméa fait aussi un appel à dons parce qu'ils assurent une banque alimentaire pour tous les travailleurs, les plus de 20 000 travailleurs, notamment ceux qui étaient à l'USTKE et qui ont perdu leur emploi. Et du coup, c'est une banque alimentaire pour eux. Et voilà.
Tu peux nous redire juste rapidement ce que c'est le STKE ?
Alors, l'USTKE, c'est l'Union syndicale des travailleurs kanak et des exploités. C'est le syndicat indépendantiste. Kanak qui est sur une question de lutte de classe et qui est créé depuis les années 80 et qui est pour l'indépendance. Voilà.
Okay. Tu voulais, parce que là on va devoir rendre l'antenne bientôt, tu voulais aussi faire un petit appel à Solidarité. Non,
ouais, je voulais juste dire avant de partir qu'on salue quand même la libération de Léonard Pelletier, 50 ans d'emprisonnement aux États-Unis, qui était un des leaders de American Indian Movement, le mouvement indien aux États-Unis, et prisonnier politique, et qui, avec la passation Biden-Trump, a enfin été libéré, même s'il sera assigné dans sa réserve. On est quand même très heureux, enfin, de sa libération, et on espère la libération de tous les prisonniers, dans tous les peuples qui luttent, tous les prisonniers politiques qui luttent pour leur autodétermination de leur peuple. Voilà.
Ce qui fait le lien aussi avec l'appel de Tom sur la Palestine. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un appel sur un cortège kanak dans la manif.
Demain, il y a un cortège kanaky dans la manif palestine, aussi pour la libération des prisonniers. Et puis aussi toute notre solidarité à Rogring Petitot, dans Martinique, qui était dans le mouvement contre la vie chère et qui vient de prendre un an ferme.
Un an avec sursis.
Avec sursis. Et du coup, voilà, toute notre solidarité.
Pour des menaces envers le préfet, donc ça encore.
Voilà.
on sait pas trop ce que ça peut vouloir dire, mais voilà, encore un truc de répression, quoi, contre les personnes qui juste se révoltent contre les situations coloniales qu'il y a dans les différents endroits du monde.
Et d'ailleurs, là, on n'a pas trop eu le temps de le rappeler, mais ça nous tient un peu à cœur de le dire à chaque fois que là, on parle des déportés kanak, mais il y a aussi des déportés de la prison de Majicavo à La Réunion en métropole, des déportés des prisons aux Antilles qui se retrouvent en métropole méga loin de leur famille avec le même phénomène d'isolement et tout. Donc c'est aussi globalement une technique de l'État colonial, en fait. Carrément. De déporter les gens.
Et pour la Kanaky, en fait, c'est pas nouveau. Là, ça a été massif, là, mais il y a eu des déportations dans les années 80 et il y a eu des transferts aussi de prisonniers depuis plusieurs années. Donc, on est en lien aussi avec des prisonniers qui sont déportés depuis un moment, en fait.
Ouais, du coup, on va devoir rendre l'antenne. Je sais pas si on a des coucous à faire, mais globalement, des coucou à tous les prisonniers prisonnières de France, un coucou bah, à Skeeter qui nous a écrit, à Pascal,
à Kémy, à Zouzou, à Redouane,
à l'infâme, enfin voilà, à tous les gens qu'on salue d'habitude, et force aussi à tous les déportés kanak. Je voulais lire une petite dédicace de K. Un gros big up au galérien qui fait le malin parce qu'il est passé oxy, qui se reconnaîtra. Sois malin et discret surtout, toi-même tu sais qu'ils ne sont pas tous cons comme des balais. Rappel, si t'es enfermé, écris-nous ou contacte-nous sur les réseaux. L'abonnement est gratuit pour les personnes enfermées. Force, courage et détermination. Voilà, du coup, bah, on se retrouve pas la semaine prochaine en direct, mais il y avait encore un truc à annoncer.
Ouais. Il y a du coup, enfin, on en avait déjà parlé, je crois, la semaine dernière ou celle d'avant. Mais samedi 1er février, à la Maison des syndicats de Corbeil-Essonne, il y aura un événement contre la violence carcérale avec plein de collectifs qui sont présents. Désolé, on n'aura pas le temps de le lire, mais il y a un texte voilà, qui présente un peu cet événement qu'on republiera sur le site internet.
Ouais. On rend l'antenne en vitesse, force, courage et détermination. Et il n'y a pas d'arrangement. Only God can judge me. That right? Only God, baby. Nobody else. Nobody else. All you other motherfuckers, get out of my business. Really? Perhaps I was blind to the facts. Stabbed in the back, I couldn't trust my own homies. Just a bunch of dirty facts. Will I succeed? Paranoid from the weed. And hocus pocus, try to focus, but I can't see. And in my mind, I'm a blind man doing time. Look to my future, cause my past is all behind me. Is it a crime to fight for what is mine? Everybody's dying. Tell me what's the use in trying. I've been trapped since birth. Cautious, cause I'm cursed. And fantasies of my family in the hurts. And they say it's the white man I should fear. But it's my own kind doing all the killing here. I can't lie, ain't no love for the other side. Jealousy inside, make them wish I died. Oh my lord, tell me what I'm living for. Everybody's dropping, got me knocking on heaven's door. In all my memories of seeing brothers bleed and everybody grieves, but still nobody sees. Recollect your thoughts, don't get caught up in the mix, cause the media's full of dirty tricks. Only God can judge me. Yeah, baby. Only God can judge me. Only God can judge me.